Vous écoutez RTL.
Nightlist. RTL. Éric Jean-Jean.
La première heure.
Salut et bienvenue sur RTL pour la première heure de la semaine que nous passons avec Jean-François Pierre. Bonjour Jean-François.
Bonjour Éric.
Bon, les lunettes, non, pas vous.
Si, ça commence.
Ouais. Oui, comment vous faites? Vous dormez un jour, Jean-François Piège?
Tous les jours, oui, comme tout le monde.
Oui, mais combien de temps?
Le temps qu'il faut.
Oui, c'est-à-dire pas beaucoup. Je regardais tout à l'heure tout ce que vous faites en ce moment, avec notamment un nouveau projet qui arrive et dont on va parler, qui s'appelle le Clover Grill. Mais comment vous faites pour tout réussir à tout placer dans une journée? Je suppose que c'est une question d'organisation, qu'on délègue aussi pas mal, mais quand même.
Quand on est passionné, on n'a pas de problème de temps. Donc ça, c'est la première chose. On n'a pas beaucoup de temps pour nous, déjà aussi. Ça, c'est la deuxième chose. Ouais. Et ben, on y va de notre rythme. Clover Grill n'est ouvert que le soir pour commencer, donc on y va aussi gentiment.
Allez, on y va justement dans ce Clover Grill. Il y a déjà un premier truc qui m'intéresse, ça va être un grill, j'adore ça. Il y a des cocktails.
Il y a aussi des cocktails, ouais.
Alors, Jean-François Pierre, j'ai des cocktails, c'est
quoi? Non, c'est pas. Alors, d'abord, le grill, c'est Elodie et moi.
Ouais. Elodie, c'est votre épouse, hein, je dis ça pour ceux qui ne savent pas. D'ailleurs, vous fabriquez une équipe tous les deux.
On ne la fabrique pas, on l'a fait. On est, pardon.
Et donc, les cocktails. Donc, le grill, c'est Elodie et Jean-François Pierre. Mm-hmm. C'est un tout nouveau restaurant qui vient d'ouvrir là, qui sera ouvert le midi aussi à partir de janvier, j'ai vu.
C'est ça, mais parce qu'il fallait roder la formule du soir et prendre le temps de la mettre parfaitement au niveau où on souhaitait, et que ce qu'on peut manger le soir n'est pas forcément ce qu'on va manger le midi. Donc ça sera une deuxième étape. Et c'est pour ça que le temps qui nous est compté, on ne fait pas tout vite, on fait tout bien.
Ouais. On fait tout mieux.
Non, tout bien.
On fait plus tout bien, mieux,
tout bien, ça, tout bien.
Tout mieux.
Ça c'est le passé.
On y reviendra d'ailleurs sur ce passé qui est absolument incroyable. Mais donc un grill, pourquoi fabriquer un grill quand on est un chef 2 étoiles, Jean-François?
Parce qu'en fait, ce qui m'intéressait dans le grill, c'était le fait de cuisiner à la braise. C'est-à-dire que de pas simplement se dire on va ajouter un restaurant supplémentaire à notre liste de restaurants, mais on va dire quelque chose dedans. Et pour moi, c'était important de trouver le petit bouton de la passion qui était de transformer les ingrédients différemment que ce que je peux le faire dans mes autres restaurants. Le grand restaurant, c'est la grande cuisine française, l'identité de la gastronomie. Clover, qui est notre deuxième restaurant en ordre chronologique, qui est à Saint-Germain-des-Prés, lui, c'est la cuisine du marché. C'est-à-dire que on regarde ce qu'on peut trouver et on cuisine. La cuisine est dans la salle, c'est la cuisine du marché. L'identité de la cuisine ménagère. Et Clover Grill, c'est la cuisine à la braise. Et il y en a un qui va arriver dans la semaine aussi, qui va s'appeler Clover Shop, qui est boutique à manger, où on va pouvoir trouver des choses qui nous appartiennent, que ce soit des choses qui se mangent, des livres, des assiettes, des bougies, des sandwichs aussi. Ouais. Parce que dans le quartier, il y a quand même pas mal de personnes qui sont sensibles aux sandwichs, parce qu'il y a pas mal d'écoles, pas mal de choses comme ça.
Pas très loin de la fac de médecine, si ma mémoire est bonne.
Et Sciences Po.
Exactement. Voilà. Ça fabrique des futurs cerveaux. Est-ce que je dois imaginer qu'on est en train de fabriquer une œuvre? Quand je dis une œuvre, c'est-à-dire quand on regarde l'ensemble de la fabrication d'un artiste, ce que vous êtes, on se dit finalement qu'il y a peut-être une œuvre. En tout cas, il y a une logique.
Mais c'est ce qu'on dit dans le compagnonnage. Hein. Ouais. Quand on présente son compagnonnage, on présente son œuvre. C'est pas pour qualifier ce qu'on fait, c'est pour montrer le travail qu'on va réaliser et que les autres vont pouvoir juger. Alors nous, évidemment qu'on est jugé parce que c'est la base des restaurants, ouais. Mais nous, c'est une volonté entre nous de ce qu'on a envie de dire. Et on a envie de dire des choses différentes dans des lieux différents. C'est vrai qu'on est parti sur le cocktail, parce que je pense que le cocktail, c'était le...
Mais c'est rigolo, ça.
Ouais, c'est chouette.
J'imaginais tellement pas un cocktail chez Jean-François.
Merci de me prendre pour un ringard, merci.
Pas du tout, j'imaginais plutôt un grand cru, au contraire.
C'est rigolo, mais ça. En fait, c'est ça. Ce restaurant, c'est un restaurant qui est à la fois cool, mais qui est à la fois aussi précis et qualitatif. Ouais. Quand Elodie et moi, on a réfléchi à comment qualifier, on a trouvé un anglicisme qui était gastropub. C'est ce qu'on peut trouver à Londres. Un jour, on est allé... en banlieue londonienne, on est rentré dans un gastropub qui a une étoile Michelin, et on a trouvé un vin d'un grand vigneron que j'ai sur ma carte et qui est extrêmement difficile à trouver. Et ça, c'est typiquement ces gastropubs. Et ben, chez Clover Grill, il y a les plus grands vignerons de France, il y a les plus grandes viandes du monde, il y a les meilleurs poissons de France, il y a les légumes de l'île de France, parce que le grill, c'est pas, on s'arrête pas à la côte de bœuf, hein. On fait une pizza soufflée avec des Saint-Jacques, on fait un poireau au grill, on fait un velouté de topinambour. Bah oui, c'est fait exprès. et on a des grands vignerons, on a un Ermitage de chez Jean-Louis Chave, on a une Côte-Rôtie de chez Jamais, on a la verticale complète c'est-à-dire du premier au dernier millésime de Grange des Pères, parce que c'est le vin préféré d'Élodie. On a les grands blancs de Bourgogne. Ouais. Voilà. Et c'est le restaurant qu'on voulait faire. C'est-à-dire, on peut trouver le meilleur, mais on peut aussi trouver. On vient de.
Des choses plus acceptables, plus abordables. Sans
flagornerie, je pense qu'il y a le meilleur steak frites de Paris. On a un steak de dingue. Et il est à 20 euros. Donc voilà. Mais c'est un steak frites. Ouais, ouais. Ouais. Mais après, c'est vrai que si on prend une très belle côte de bœuf, ou on prend une poularde de Bresse, ou on prend un turbo, hier on avait du turbo, on a vendu un petit turbo qui faisait 1,2 kg, qu'on a cuit entièrement à la braise, il y a un ressenti qui est très différent que quand je le cuisine dans mes autres restaurants. Et moi, ce qui me, c'est cette flamme, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est cette flamme qui m'intéresse en fait. C'est de transformer ces ingrédients différemment dans ce restaurant-là. Et franchement, c'est la première fois qu'on cuisine un turbo de cette façon-là. C'était super intéressant parce que tous les turbos sont différents. Parce que celui qui fait 1,4 kg, il va cuire différemment que celui qui fait 1,2 kg. Celui de Bretagne va cuire différemment que celui de Normandie. Et c'est une cuisine qui est assez dingue.
On peut attraper une étoile avec un restaurant comme celui-ci. Est-ce que ça fait partie des objectifs?
Non, pas du tout. Non. Il faut que ce soit un restaurant qui soit accessible, en fait. Ouais. Et toute la difficulté des restaurants aujourd'hui, dès qu'ils viennent d'ouvrir, c'est de ne pas être accessible. Donc évidemment, on a un bar à cocktail, mais aussi on pourra manger en face. Donc c'est un endroit qui ne sera pas réservable et on peut se dire que si on passe dans la rue et qu'on a envie de bien manger quelque chose qui va être cuit à la braise, on pourra s'arrêter.
Bon, très bien.
Il ne faut pas avoir peur de pousser la porte, en fait. Faut pas.
Clover, il y avait un article, Jean-François Piaget, notre invité, dans le Parisien Magazine, qui parlait des chefs qui s'engagent pour sauver la planète. D'abord, est-ce que ça vous parle? Et ensuite, justement, un restaurant comme ça, quand je vous entends dire, moi, je vais prendre des légumes de la région, etc., ça a du sens pour vous?
C'est marrant parce que parfois, je me dis, mais j'ai fait ça toute ma vie. J'ai jamais acheté des poissons de pêche intensive. J'ai jamais acheté des volailles qui sortent de batterie. J'ai jamais acheté des légumes qui viennent de je sais pas d'où. C'est pour ça qu'à la fois, je suis évidemment concerné, mais je n'ai fait que ça toute ma vie. Ouais. Donc, on n'a jamais transigé de cette première règle de cuisinier, qui est d'écouter la nature pour faire la cuisine. Et le jour où on l'écoute plus, je pense qu'on fait une mauvaise cuisine. Donc, nous, on ne fait que ça. Donc, c'est pour ça que parfois, je me dis, mais c'est bizarre de penser à ça, parce qu'en fait, c'est normal pour moi.
Oui, pour vous, c'est enfoncer les portes ouvertes, évidemment.
Je me le dis intérieurement, hein, je le dis pas à tout le monde, mais c'est vrai que je pense que quand on vient chez un cuisinier, c'est un des rares métiers où on lui transfère sa confiance, parce que nous, on fait ingérer ce qu'on prépare, et donc il faut avoir une grande responsabilité. Et c'est vraiment, aujourd'hui, on a plusieurs restaurants, Élodie et moi, un message que l'on martèle à nos collaborateurs, c'est-à-dire ne pas transiger sur la qualité des ingrédients, qu'ils soient dans l'assiette ou à côté de l'assiette, parce que on parle aujourd'hui beaucoup d'ingrédients, mais le pain, c'est de la farine quand même. Mmh. Et le premier ingrédient qu'on utilise aujourd'hui, nous, c'est l'eau. Ouais. Et c'est un travail qu'on a fait même pour faire nos jus, pour faire nos bouillons. Aujourd'hui, on filtre l'eau. Ça paraît tout bête, mais je peux vous dire que ça donne des résultats qui sont très très différents.
C'est des détails comme ça qui font les étoiles?
C'est des détails comme ça qui font la bonne cuisine. Et après, si la cuisine est bonne, évidemment, que ça peut faire des étoiles.
Qu'est-ce qu'on écoute, Jean-François Piège, dans votre programmation ce soir pour la première heure de la semaine sur RTL?
Comme on a parlé de nourriture, on va en parler toute la soirée, mais peut-être le dîner alors.
Alors le dîner...
De notre ami Benabar.
Je connais pas ce garçon.
C'est vrai.
Le dîner, c'est Benabar sur RTL et c'est la première heure de Jean-François Piège.
Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué. Ils nous en voudront pas, allez, on n'y va pas. En plus, faut que je fasse un régime, ma chemise me boudine. J'ai l'air d'une chipolata, je peux pas sortir comme ça. Ça n'a rien à voir, je les aime bien tes amis. Mais je veux pas les voir, parce que j'ai pas envie. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas, et puis tant pis. D'humeur, tout me déprime, et il se trouve que par hasard, il y a un super bon film à la télé ce soir. Un chef-d'œuvre du 7e art que je voudrais revoir, un drame très engagé sur la police de Saint-Tropez. C'est une satire sociale dont le personnage central est joué par De Funès. En plus, il y a des extraterrestres. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas, et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas, frisson, je me sens faible, je crois que je suis souffrant. Ce serait pas raisonnable de sortir maintenant. Je préfère pas prendre de risques, c'est peut-être contagieux. Il vaut mieux que je reste, ça m'ennuie, mais c'est mieux. Tu me traites d'égoïste, comment oses-tu dire ça? Moi qui suis malheureux et triste, et j'ai même pas de home cinéma. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas, et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas, on n'a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi la télé.
Le dîner sur RTL Benabar, choisi par Jean-François Piège pour sa première heure. Bah, du coup, vous êtes allé voir la pièce de Benabar qui est en ce moment sur les routes de France. C'était ce week-end, Jean-François?
Ouais, c'était ça, ouais.
Ouais. Je vous écoute. Voilà, et c'est l'histoire d'un.
Et c'est super.
D'un psy qui vient d'être, comment dire, importuné par un type qui, a priori, a perdu sa femme à cause de lui. Je vous en dis pas plus, allez le voir. Oui, c'est vrai, avec une nouvelle distribution, c'est vraiment chouette. C'est quoi votre rapport à la musique? D'abord, Benabar, on sait que c'est quelqu'un qui aime bien manger, qui vous aime beaucoup. Il a beaucoup parlé de vous. Je sais que vous êtes très proche. C'est quoi votre rapport à la musique, Jean-François Piège?
C'est difficile parce qu'on ne peut pas tout faire.
Ouais, c'est vrai.
La musique, c'est souvent dans la voiture.
Ouais. C'est possible de cuisiner j'ose pas dire le mot cuisiner quand je parle de vous. C'est possible de vrai.
Non, de cuisiner. Ouais,
de
oui.
Cuisiner en écoutant de la musique ou...
Bon, d'ailleurs, je pense que ça fait partie du quotidien de beaucoup de personnes. Ouais. Écouter la musique en cuisinant. Chez nous aussi, pendant la mise en place, c'est pas quelque chose que je réalise parce que je peux pas tout faire. Uh-huh. Mais c'est vrai qu'il y a de la musique dans nos restaurants parce que tous nos cuisiniers écoutent de la musique le matin ou en fin de journée, avant que le service arrive. Après, pendant le service, le moment où on réalise ce qu'on doit faire pour les clients, la concentration est de mise, donc la musique n'est pas la bienvenue.
Ah bon? Vraiment? Il faut vraiment être très concentré.
Bah, la cuisine, c'est une multitude de petits gestes qui doivent avoir une précision quand même ultime, parce que une viande qui est salée ou un poisson qui est salé, c'est 1,5 g de sel. 2 g, c'est trop salé. Et c'est ça, en fait, qui fait la différence d'une grande ou d'une très bonne et d'une moins bonne cuisine, c'est quand toutes ces petites choses auxquelles l'importance est essentielle, on n'a pas accordé le temps et la concentration qu'il faut. Cuisiner, c'est pas quelque chose d'incroyable, mais il faut connaître ces choses et appliquer la plus grande rigueur dessus.
C'est quoi, Jean-François? C'est un peu de chimie, c'est beaucoup de culture. Je sais que vous avez des manuscrits, par exemple, de très vieux grimoires.
Il y en a un qui est rigolo, qui est le livre le plus vieux que j'ai, qui est de Denis Papin. Denis Papin, c'est
l'inventeur de la cocotte minute.
De la machine à vapeur.
La machine à vapeur. Et donc de la cocotte minute. Oui.
Et donc, un de ses ouvrages qui est de 1698, qui est l'ouvrage le plus ancien que j'ai, c'est L'art d'amollir les os.
Quoi?
Ça veut dire, l'art d'amollir les os, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est l'inventeur du bouillon cube, en fait.
Mais sans déconner.
Ouais. Donc c'est. Alors je sais pas si ce qui est écrit dans le livre a été réalisé, ouais. Mais il y a des machines, donc, pour. Transformer les os en poudre ou en fait c'est des choses du quotidien, hein. Ouais. C'est ce qu'on peut vivre aujourd'hui, hein.
Est-ce qu'il existe une histoire de la cuisine, des livres d'histoire? Moi je me souviens d'un type qui faisait de la cuisine moyenâgeuse au Louvre par exemple. Uh-huh. en partant je crois des écrits de Montaigne ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il existe comme grimoire ou comme vieux livre?
Alors il y en a pas mal, mais on dit que les premiers ouvrages qui concernent la cuisine ont été écrits sous Louis XIV parce que c'est le premier qui a scénarisé le repas. Quand la France a déposé à l'UNESCO c'est le repas français, pardon, pas le dîner, le repas français qui a été inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité, les historiens se sont dit qu'on avait commencé à codifier la façon de manger française sous Louis XIV. Parce que lui, il avait un rythme. Ce qui est très marrant, c'est que moi, j'ai fait à Versailles des dîners en essayant de reproduire ce que faisait Louis XIV avec un historien. Évidemment, il a inventé pas mal de choses. Au-delà du fait qu'il mangeait en public, il avait un rythme pour manger. Il terminait son repas toujours avec un œuf dur.
Mais pourquoi faire?
Pourquoi. Il n'était pas là pour nous le dire, mais c'est vrai qu'il y avait peu de desserts à l'époque.
Mais est-ce que c'est vrai aussi, Jean-François, que, par exemple, un plat sucré pouvait arriver entre deux plats salés ou quelque chose comme ça?
Il y a un rythme qui était différent. On le voit bien parce que le dernier plat était un plat salé, c'était un œuf dur.
Ouais, dingue ça.
Donc voilà. Il y avait toujours aussi à manger tout le temps sur la table. Il a inventé À l'époque, il n'y avait pas de fleurs, mais pour remplacer les fleurs, ça s'appelait un surtout. Et dans ce surtout, il y avait toujours à manger. Donc, c'est-à-dire au moment entre les plats, pour éviter les temps morts, il pouvait tendre la main et se servir à manger, sur lequel il aurait pu trouver peut-être un fruit ou simplement une cuisse de volaille rôtie. C'était un endroit où on pouvait toujours manger.
C'est dingue ça. Et surtout, il y avait beaucoup de services, non ? Il mangeait beaucoup de plats ?
Il mangeait beaucoup de plats, il commençait toujours par des soupes. Il n'y en avait pas une, il y en avait quatre. Au cas où. Voilà.
Au cas où.
Mais c'était vraiment la profusion, ouais. C'est vrai. C'était vraiment la profusion.
Et le menu tel qu'il existe aujourd'hui, Jean-François, qu'on retrouve chez vous, alors au grand restaurant, par exemple, puisqu'on va parler là pour le coup de très haute gastronomie, il est né à quel moment ? C'est-à-dire avec ce qu'on connaît nous aujourd'hui, c'est-à-dire entrée, plat, fromage, dessert, fromage ou pas d'ailleurs.
Mais moi, simplement, depuis que j'ai commencé, ça a changé.
C'est pas vrai ?
Bah oui. Bah parce qu'en fait, la cuisine et le restaurant est quand même un reflet d'une époque, ouais. Comme la musique. Ouais. Parce que la question au début, c'était la musique. Ouais. Bah, j'allais dire, c'est un peu le reflet d'une époque. Parce qu'on voit à travers les dates qui vont ponctuer cette heure qu'il y en a un peu pour tout le monde. Et le restaurant, c'est aussi ça. Ce que je faisais au crayon, je ne pourrais plus le faire aujourd'hui. Il y a des plats que je maîtrise parfaitement du crayon, que je n'arrive plus à refaire aujourd'hui.
Par
parce
exemple.
Que Il y a un plat, ma femme me dit, mais pourquoi tu le refais pas, pourquoi tu le refais pas? C'est le spaghetti carbonara. Et au crayon, c'était le... J'avais inversé dans sa conception la quantité de lard et de spaghetti. Le lard, c'était un lard qui avait été cuit, une poitrine de cochon qui avait été cuit très fondante, et on faisait la peau dessus très croustillante, et on servait comme une baguette une barrette de spaghetti qui était enroulée sous un fondant de parmesan. Le spaghetti était pas le... ce gros plat comme ça.
Pardon.
Et j'arrive plus à le refaire parce que je trouve que ce mode d'expression qui était celui d'il y a 10 ans ne correspond plus à ce que j'ai envie de faire aujourd'hui.
Ah oui, c'est juste une envie.
Bah oui, mais la cuisine, c'est quoi?
Oui, c'est vrai.
C'est une envie. C'est une envie de la manger, c'est une envie de la faire. C'est une envie de la faire pour faire plaisir. Et quand on n'arrive pas à regrouper ses ingrédients, on n'arrive pas à remettre au cœur de l'assiette ce qu'on peut penser faire.
Je réfléchissais en préparant cette émission et je lisais des trucs sur vous. Il disait que au crayon, vous avez amené une forme de cuisine, vous avez ramené la cuisine traditionnelle. Ça veut dire quoi, Jean-François ? Vous avez ramené les plats, les anciens plats ?
C'était en fait, moi, il y a quelque chose qui est extrêmement important. Aujourd'hui, sans être franchouillard et cocardier, quand je vais visiter un pays à l'étranger, j'aime aller visiter l'identité de ce pays. Et nous, en France, et les cuisiniers français, ont très souvent pris des habits qui n'étaient pas les leurs pour faire la cuisine. Moi, j'ai envie d'être français, mais sans être rétrograde ni franchouillard. J'ai simplement envie de faire la cuisine dans l'époque dans laquelle je vis, on revient à ce que j'ai dit juste avant, mais qu'elle soit d'identité française. Même si la France a emprunté inévitablement des choses à l'étranger. Je parlais spaghetti carbonara, mais simplement la façon dont je l'ai ramené, où la poitrine de cochon fondante pouvait rappeler des plats un petit peu plus régionaux français, j'avais envie de le ramener dans ce sens-là.
Qu'est-ce qui reste de votre Drôme natal dans votre cuisine aujourd'hui, Jean-François Piège ?
L'homme que je suis, tout simplement. Le cuisinier que je suis a été fait par les expériences que j'ai vécues quand j'étais plus jeune, que ma grand-mère, mon grand-père, ma maman m'ont fait vivre. Et aujourd'hui, ce que je le fais indéniablement par rapport à ce que j'ai vécu, et par rapport aussi à l'amour que j'ai de cette région, parce que dans cette région, il y a quelqu'un qui m'a marqué, qui est aujourd'hui disparu. Si je fais ce métier-là, c'est parce que il y avait un cuisinier qui rayonnait, qui s'appelait Jacques Pic, c'est le papa d'Anne-Sophie Pic aujourd'hui. J'ai jamais eu la chance d'y travailler, parce qu'à l'époque, c'était impossible d'y aller, parce qu'on ne prenait pas des gens qui sortaient de l'école hôtelière, c'était le summum de la gastronomie en France, et que j'avais pas l'expérience nécessaire. La vie a fait qu'il est parti avant que je puisse avoir l'expérience pour y rentrer. Donc ça restera l'un de mes regrets ultimes de ne jamais avoir travaillé chez Jacques Pic.
Ouais. Et lui, c'est un truc qui vous... enfin c'est un personnage qui vous donne envie.
Alors c'est marrant parce que moi c'est jamais les personnages qui m'ont donné envie, c'est la cuisine qui faisait. Moi j'ai jamais rêvé d'être un grand cuisinier, j'ai toujours rêvé de savoir faire ce qu'il faisait. C'était cette curiosité qui m'a animé, enfin qui m'anime quotidiennement aujourd'hui, mais c'est pas l'intérêt de la réussite ou tout ça, c'est ça n'a jamais été mon moteur. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça quand on a parlé de Plover, c'était de découvrir des territoires que je ne connaissais pas. Et donc, quand je voyais des plats de Jacques Pic, je me disais, mais comment il faisait ça ? C'est mon seul moteur, en fait, dans la cuisine, c'est d'aller découvrir pour acquérir le savoir de faire certaines choses. La seule chose qui change, avant, je me servais des autres pour avancer. Maintenant, c'est moi qui décide des territoires dans lesquels j'ai envie d'aller.
Oui, je comprends.
Et quand on devient auteur du propos, en fait.
Oui, mais c'est comme un artiste. Enfin, moi, je vous considère comme un artiste. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez sans doute puisé dans plein de gens avec qui vous avez travaillé. On n'a pas parlé de Christian Constant, mais je sais que vous avez travaillé à son côté. Il y avait plein de gens comme ça aux côtés desquels vous avez travaillé. Et puis, à un moment, vous vous lâchez tout seul. D'ailleurs.
Oui, mais c'est ça. Hein, c'est quand je dis on apprend à faire la cuisine avec la cuisine des autres, et à un moment donné, on fait sa cuisine.
On va en parler de votre cuisine. Moi, j'ai très envie. Qu'est-ce qu'on écoute avant?
Qu'est-ce qu'on écoute? On parlait de cuisine, et je pense que l'acte de cuisiner, c'est un acte d'amour. Et je trouve que l'une des plus belles chansons qui a été faite, c'est celle de Johnny Hallyday.
Bonjour lâché, de perdre prise, de se sentir tomber. On pensait que tout était bien fixé, mais voilà que le sol se met à trembler. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Je pensais qu'on était parti pour des années, comme le boulot que je venais de trouver. Mais l'abattoir ne veut plus embaucher. Il ne me reste plus qu'un seul projet. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Ouais. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. J'en avais trop pour nous deux. J'en avais trop pour nous deux. Et je sombre pour nous deux. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller. De quelle façon faut savoir encaisser. Si le ciel pouvait au moins se lever, on pourrait aller enfin le décrocher. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. C'était maintenant, c'était maintenant, je m'en vais. C'était maintenant, c'était maintenant, je m'en veux. Et je sombre pour nous deux.
Johnny sur RTL avec de l'amour. Alors, de l'amour, il en est question dans la cuisine avec Jean-François Piège, mais aussi avec Johnny Hallyday. C'est une vraie histoire d'amitié, ça. C'est arrivé comment? Il est venu manger chez vous?
Tout simplement.
Ouais. Il est venu manger et vous me disiez, on lui fait pas manger n'importe quoi, Johnny. Il s'y connaît vraiment.
Bah, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. C'est quelqu'un qui a une grande connaissance de ce qui se fait dans le monde de la musique, dans le monde de l'hôtellerie, de la gastronomie. Donc. C'est culturel en fait. C'est quelqu'un de très cultivé et très intelligent. Donc évidemment que quand on a eu la chance de voyager comme il a voyagé, on a un background qui est quand même assez imposant dans ce niveau-là.
Est-ce que j'ai le droit de vous demander ce qu'il aime, Denis ?
Non, parce que ça reste les secrets des restaurateurs. Nous sommes des petits singes, on entend tout, on voit tout, mais on dit rien.
Ouais, c'est
il
là
aime
que,
ce qui est bon, ça c'est sûr.
C'est là que je voulais en venir en fait, parce que quand on a un grand restaurant comme le vôtre, souvent on a, j'allais dire, des têtes couronnées, en tout cas des têtes célèbres, et le but du jeu c'est qu'il soit tranquille et c'est que rien ne sorte de ce restaurant.
Bah exactement.
Je parle du grand restaurant. Justement.
Oui, exactement. Si ça sort, c'est eux qui l'ont décidé,
ouais.
mais pas nous. Ça fait partie de notre univers, en fait.
Et ça, c'est un truc qu'on apprend, par exemple, dans les palaces, parce que vous avez commencé dans les palaces.
Mm-hmm.
C'est ça, ce qui est dans le palace.
Le savoir-vivre, oui. C'est les palaces sont une école de savoir-vivre. Et ouais. Je pense que la France est une école de savoir-vivre. Surtout la gastronomie française est une école de savoir-vivre.
Et vous avez été à bonne école, 1991, vous arrivez pour un service militaire. Et là, c'est l'Élysée.
C'est considéré, on dit, la première maison de France, hein, l'Élysée.
Mais c'est complètement dingue de se retrouver. Vous aviez quel âge, Jean-François ? Vous étiez un môme à l'époque ?
Oui, j'avais 20 ans. Ouais.
20 ans, mmh. À l'Élysée, mmh. Dans les cuisines de l'Élysée. Le président, c'est le président Mitterrand,
oui.
Qui était une fine gueule. Et. Ah, peut-être pas, je sais pas.
Si, c'était plus qu'une fine gueule, c'était quelqu'un qui avait des envies en plus. C'est marrant parce qu'on en a parlé tout à l'heure.
Racontez-moi.
Je pense que ça ne se fait plus maintenant, mais lui disait carrément qu'il avait envie de manger ça, et je trouvais ça génial. Et à l'Élysée, que ce soit sur n'importe quel président, c'est pas politique, mais les cuisiniers qui sont là, ils ont, eux, une envie, c'est faire plaisir à leur mangeur.
Ouais.
En l'occurrence, leur mangeur, c'est le président de la République.
Et donc là, le président vous disait...
Alors, il faisait descendre en disant, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de manger des... Alors, il a des envies qui sont des envies par rapport à ses origines aussi. Il aimait beaucoup les fruits de mer, les crustacés.
Ouais. C'est fou de cuisiner pour un président de la République, ouais. Quand on a 20 ans.
Oui, c'est fou. Ouais.
Et comment ça se passe ? C'est-à-dire que vous avez une clause de conscience, obligé de rien dire, etc.
Alors, peut-être que ça existe maintenant, mais je pense que à l'époque, c'était même pas discutable. Et je crois qu'on en a même jamais parlé parce que ça n'aurait effleuré l'esprit à personne de dire ce qui se passait à l'Élysée.
Ça ressemble à quoi, les cuisines de l'Élysée ? Ça ressemble vraiment à vos cuisines aujourd'hui, Jean-François ?
Alors, pas du tout. Moi, quand j'y étais, elles venaient d'être faites. Elles étaient toutes neuves, mais il y a 30 ans. Donc, elles sont toutes neuves depuis 30 ans. Et c'était un fourneau qui était totalement en fonte. Alors, ça veut dire quoi, la fonte ? Ça veut dire que c'est un alliage d'acier. Dès qu'on met une goutte, ça rouille. Donc, on le frottait comme des dingues. Mais ce qui est plus incroyable, ça, c'est de cuisiner dans des casseroles qui sont à l'inventaire du patrimoine. Il y a des casseroles qui sont estampillées Napoléon III. Ouais. Et il y a des casseroles, pour les porter, on se mettait à quatre.
C'est pas vrai.
Il y a certaines où je pouvais entrer dedans. C'est des marmites, hein. Je dis casseroles, mais c'est des marmites. Et c'est vrai que cuisiner avec des objets comme ça, je sais pas si, quand j'avais 20 ans, je sais pas si j'avais la totalité du ressenti. Quand j'y pense aujourd'hui, je me dis c'est quand même dingue.
Est-ce que vous avez un... Comment dire ? Vous avez cuisiné pour tellement de personnes, mais est-ce que vous avez un petit top de personnalité ? Quelqu'un que ça vous avait vraiment fait plaisir de cuisiner pour lui ? Je sais pas, un président quelconque, une star quelconque, quelqu'un qui a été une belle rencontre ?
Enfin, je trouve aujourd'hui la personne pour laquelle j'ai plus envie de cuisiner, ça va pas être très original, c'est mon fils.
C'est vrai.
Tout. Ouais, voilà.
C'est rigolo de dire ça.
C'est pas le. Et ça a été la première fois qu'Élodie l'a emmené au restaurant, qu'il a mangé un blanc-manger, c'était assez rigolo. Je suis pas comme ça et je préfère. Moi, mon plaisir, c'est cuisiner pour les gens que j'aime. Ouais. Voilà.
Parlons de famille. Élodie, votre épouse, fait partie justement intégrante de votre job. Vous êtes papa, vous venez de le dire. Est-ce qu'on a le temps d'être papa quand on est Jean-François Piège et comment ça se passe ?
Bah oui, parce que grâce à Élodie, au début, il était tout le temps avec nous. Elle prenait les réservations au grand restaurant, il était là. Je pense que les premiers mois du grand restaurant, les gens ont entendu pleurer Antoine. Donc c'est une affaire familiale. On veut que ce soit comme ça. C'est aussi grâce à Élodie parce que comme on fait tout ensemble, et ben ensemble c'est aussi avec Antoine. Évidemment, on est chez nous, donc on a la liberté aussi d'un moment donné, même si on fait beaucoup de choses. De se dire, on a envie de...
Qu'est-ce qu'il aime, Antoine ? On a parlé de blanc-manger. D'abord, c'est quoi un blanc-manger ?
Blanc-manger, c'est un peu ma Madeleine de Proust. J'avais une grand-mère qui faisait une île flottante. Et la vie a fait qu'elle est partie sans nous transmettre la recette. Et cette île flottante, j'en ai le goût, j'en ai l'image, j'en ai la saveur.
Et vous n'arrivez pas à la refaire ?
Et je ne suis jamais arrivé à la refaire, jamais. Et en fait, enfin, comme elle. Et en fait, du fait que je ne sois jamais arrivé à la refaire comme elle, parce que ce qu'elle nous a dit quand elle nous l'a dit, c'est pas possible, ça marche pas. Donc, il y a un truc qui marche pas. Et donc, j'ai commencé à travailler, puis en arrivé à, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, j'ai tourné la page de ce qu'elle faisait pour faire la mienne.
pour faire autre chose. Ça s'appelle le blanc-manger, donc c'est une sorte d'île flottante.
Alors, la crème anglaise est à l'intérieur. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit le blanc-manger qui flotte sur la crème anglaise, c'est le blanc-manger qui entoure la crème anglaise.
Comment vous inventez un plat, Jean-François ? Comment ça part ?
La première chose, on écoute la nature. On regarde ce que la nature nous délivre. Après, on regarde un petit peu ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'exprimer dans un univers. C'est pour ça que nos restaurants ont tous des univers différents. Le grand restaurant, je voulais être très français.
Et très chic aussi, hein, parce que le toit, le truc, elle est canon, cette salle.
Oui, elle est canon, mais c'est pas... tout ce qu'on fait, même si c'est chic, pour nous, c'est accessible. C'est l'une des dimensions extrêmement importantes de notre expression dans nos restaurants, c'est que c'est pas empesé. Et je pense que c'est ça aussi, quand on parlait de modernité. La modernité, c'est pas provoquer, c'est pas faire différent, c'est être soi-même et amener dans l'époque dans laquelle on vit son expression.
Oui, mais il y a de l'art là-dedans. Il y a de l'art, y compris dans la décoration.
Oui, absolument. Oui. Mais c'est des choses... Le dernier restaurant, c'est Elodie et moi qui l'avons décoré, Clover Green.
Mmh. Et c'est parce que c'est la recherche de beauté dans l'assiette, à l'intérieur de la bouche.
Et de confort. Parce qu'en fait, le confort, il est culinaire. Ouais. Il est réel. Il y a le confort visuel, parce que le confort visuel fait partie aussi... je pense du plaisir. Quand on est dans un endroit qui est beau, on a un confort visuel. Bah, on parlait d'RTL tout à l'heure.
Ouais.
Quand on arrive rue Bayard,
on sait qu'on y est.
C'est un confort visuel. Les locaux sont beaux. Et je pense qu'un restaurant, ça fait partie de l'expérience du restaurant. Le contexte amène à vivre culinairement une expérience différente.
Est-ce que ça veut dire, Jean-François, que suivant les endroits, vous pouvez pas faire la même cuisine ?
Mais c'est pour ça qu'on fait pas la même cuisine dans tous les endroits.
On peut pas faire trois grands restaurants identiques, par exemple.
Ah non, il y en aura qu'un.
Le grand restaurant,
c'est... Il y en aura qu'un. Oui, ça, c'est sûr. Et les Clover, il y en a plusieurs, parce que tout ce qu'on fait en dehors du grand restaurant, c'est Clover. Mais il y en a un qui s'appelle Clover, parce que c'était le premier. Ouais. L'autre, Clover Grill. Et l'autre, la boutique à manger, Clover Shop. Ça veut dire que dans chaque identité, il y a des choses différentes.
Et pourquoi Clover ?
La première chose, c'est quand je suis parti du Crillon, Elodie et des amis m'ont offert un trèfle. Et dans ma petite réflexion, je me suis dit que ce porte-bonheur pouvait incarner ce que les clients vont voir en premier de nous. C'est l'affichage, c'est le logo. Et pour revenir à ce que je disais avant, on a la chance de travailler avec des artistes graphistes qui s'appellent les M&M, Mathias et Michael, qui font beaucoup de choses dans l'univers de la musique.
C'est pas les trucs en chocolat, les M&M's.
Non, c'est pas les trucs en chocolat. Ils font beaucoup de pochettes d'albums, ils travaillent peu dans l'univers de la restauration. Et c'est eux qui ont créé notre identité graphique.
D'accord.
Et donc, ils se sont servis
de ce trèfle
qui a été dessiné, le trèfle du grand restaurant. Et donc, quand on a voulu élargir notre cercle d'expression, Elodie a dit, ben, Clover, c'est pas mal. Mmh. C'est elle qui a été à l'origine de ce mot. Et donc, après, par la suite, on a capitalisé sur Clover pour en faire des petits frères.
Dites-moi, cher Jean-François Piège, Woodkid, il n'aurait pas travaillé avec ces garçons-là ? M&M.
Oh, je pense qu'ils ont travaillé avec beaucoup de monde et on sait pas avec, mais Woodkid probablement.
Ouais, et si on l'écoutait Woodkid dans votre programmation,
ça
m'a donné envie d'écouter.
Mais ouais. Moi aussi.
Ça, alors, c'est choisi par Jean-François Piège. Là, pour le coup, c'est moi qui demande.
I will have to run away. I want to feel the pain. hot snow is burning my hands. I'm frozen to the bones. I am a million miles from home. I'm walking away. I can't remind your eyes, your face.
C'est la première heure de la semaine avec Jean-François Piège qui a choisi Woodkid Iron. Alors pourquoi Woodkid Iron, Jean-François ?
Parce que j'aime le bonhomme aussi, tout simplement.
Un Lyonnais qui travaille pour les Américains, qui a un talent fou, qui sait faire des tonnes de trucs. Vous l'avez rencontré parce qu'il est venu chez vous par hasard ? Vous l'avez... Enfin, pas par hasard, mais...
Peut-être que... hasard ou pas, mais en tous les cas, c'est un bel hasard de la vie de connaître cet homme qui est cultivé, talentueux et gentil.
Ouais. Et qui a dit non à Madonna ? Ça fait partie des trucs qui font. Non, mais il a pas dit non. C'est pas du tout. Comment dire. C'est pas coquin du tout. Hein. C'est juste qu'il a refusé de travailler avec Madonna, qui a travaillé d'ailleurs avec Martin Solveig, je crois, parce que vous connaissez l'histoire. C'est parce qu'en fait, David Guetta n'a pas le bon signe astrologique, donc il voulait pas bosser.
C'est une raison très importante. Oui, je comprends.
C'est un sacré personnage, Madonna. On a digressé un petit peu, Jean-François, mais j'aimerais que vous nous racontiez comment naît un plat. Vous dites, ça naît d'une envie, ça naît de la terre, ça naît d'une saison, d'accord, mais après...
Pas d'une saison, de l'écoute de la nature, parce que la saisonnalité, elle a été très souvent incarnée par les quatre saisons, printemps, été, automne, hiver, et je pense qu'aujourd'hui, on est au plus proche de ça, parce qu'on voit bien que depuis le temps, les saisons sont un peu en train de bouger, et qu'il fait peut-être un peu moins chaud au printemps, qu'il fait un automne un peu plus prononcé, ben, c'est la nature qui dicte quand les choses doivent arriver. Et après, qu'est-ce qu'on a envie de dire ? Moi, j'ai un dada dans la cuisine, c'est la cuisson. C'est le, je pense, la plus grande identité française. C'est pas le bourguignon, c'est pas la blanquette, c'est le fait de cuire. C'est quelque chose que je crois parce que culturellement, je m'intéresse à pas mal de choses dans le monde. Mais si on regarde bien, ces plats qui ont de la sauce, elle arrive par la cuisson, c'est pas par des autres choses. Eh bien, je trouve que ça, c'est l'identité française. Et toute ma cuisine, qu'elle soit froide ou chaude, la cuisson a une importance essentielle. Mais la cuisson, ça peut être une marinade, hein, parce qu'on peut cuire par la marinade, on peut cuire par le sel. Et donc, c'est quelque chose que j'ai développé au grand restaurant et que j'ai transformé dans ma cuisine. Quand j'ai fait ce grand restaurant, faire un grand restaurant, c'était important que la cuisine, elle soit totalement identitaire, totalement singulière. Et donc, je suis allé travailler vers un mode de cuisson que j'ai appelé les mijotés modernes. Parce que
c'est quoi ?
Bah, le mijoté, je trouvais, c'est ce qui... la cuisson, hein.
Ouais.
Caractériser le mieux la cuisine que j'ai connue, que je connais, et qui est la cuisine française. Simplement que celle que j'ai connue et que je connais n'a peut-être plus sa place dans l'époque d'aujourd'hui. Donc j'y ai ajouté le mot moderne. Et au lieu que ce soit une blanquette de veau ou un bœuf bourguignon qui mijote, chez nous c'est une poularde qui va cuire dans du riz. C'est un homard qui va cuire dans des feuilles de cassis ou des feuilles de figuier. C'est un riz de veau qui va mijoter sur des coques de noix. C'est un chevreuil qui va cuire
un riz de veau qui va mijoter sur des coques de noix.
Ouais, c'est dingue. je le dis parce que c'est.
Et comment ça vient l'idée, Jean-François ? C'est ça qui me.
En fait, l'idée, elle vient que je voulais venir sur la cuisson. Le premier plat qui a été j'allais dire la base de la création, c'est le chevreuil sur les marrons grillés. Parce que je me suis dit que les marrons grillés, c'était le coussin parfait pour cuire un chevreuil. C'est pas la création d'un plat. C'est la création d'un mode de cuisson qui amène à la création d'un plat. Parce que c'est un peu tout le storytelling. C'est pas de dire, j'ouvre pas le frigo, je dis tiens, je vais mettre du curry avec de la volaille, du citron, ça c'est de la composition.
Okay.
La création, c'est quand on a envie de dire quelque chose qui est au plus profond de soi et qu'on va transformer dans un acte. Donc c'est un petit peu la façon dont laquelle je procède en écoutant la nature et puis en s'exprimant sur des terrains très différents. C'est pour ça que nos restaurants, je le répète, ont des terrains d'expression. Et il n'y en a pas un qui est plus légitime que l'autre, parce que la cuisine du marché, je trouve que c'est une cuisine fabuleuse. La cuisine à la braise, elle est fabuleuse. La grande cuisine, elle est fabuleuse. Simplement, qu'elles ont toutes des légitimités à des moments différents.
Oui, je comprends. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, Jean-François Piège, quand vous recevez votre première étoile?
Ouais, je peux me la péter un peu?
Grave.
Grave. J'en ai jamais eu une, j'en ai toujours eu deux. Mais j'en ai. Depuis, j'ai que ça. Depuis, j'ai que ça. J'ai jamais eu celle qui me manque. Je me la pète, mais après, je.
Voilà. Non, c'est super. Mais oui, alors, les deux étoiles arrivent en même temps sur le restaurant Jean-François Piège.
Ouais, de partout. J'ai toujours eu deux étoiles.
Et là, maintenant, sur le grand restaurant, deux étoiles. Ouais, mais alors, c'est pas rigolo, parce que moi, je pensais que c'était môme que vous aviez eu ça avec le crayon, un truc comme ça.
Non, même au crayon, j'en ai eu deux d'un coup. Ça s'est arrêté là.
Je regarde les récompenses de Jean-François Piège, j'en ai listé quelques-unes. Qu'est-ce qui chef de l'année en 2005, diplôme du club des 100 en 2006, 2007 chef de l'année, 2008 chevalier de l'ordre national du mérite, 2010 prix Lillet Le Bay de l'innovation pour la brasserie Tout Mieux, deux étoiles au Michelin pour le Jean-François Piège, etc. Homme de l'année, chef en 2015 par GQ, deux étoiles au guide Michelin, restaurant gastronomique Le Grand Restaurant. Vous êtes habitué.
Qu'est-ce qui manque ? Il manque la troisième.
Et alors
on y travaille. Après, c'est pas nous qui décidons. Dans tous les cas,
qu'est-ce qui fait une troisième étoile, Jean-François?
Je pense que l'important, c'est la singularité et puis la qualité. C'est ce à quoi on s'essaye quotidiennement.
Ouais. C'est aussi le restaurant. Est-ce que l'écrin du restaurant, il...
Non, je pense pas. Non. Non, mais objectivement, c'est le ressenti de l'assiette. Mais le ressenti de l'assiette, tout est important. Donc de la façon dont on dresse une assiette, moi, j'attache une importance fondamentale au contexte. Quand on est à Paris, on a un contexte qui est un peu différent parce qu'on est plusieurs à avoir le même. Quand on est dans un coin reculé de la France, peut-être qu'on a un contexte qui est plus singulier que les autres. Alors, c'est peut-être une difficulté à Paris, mais cette difficulté, elle me plaît bien parce que je pense que Paris, c'est le plus beau podium des produits français. Donc on a des difficultés, mais on a aussi une chance incroyable.
Je viens d'avoir un truc qui s'est éclairé dans ma tête et c'est rare, donc j'en profite. La cuisine de ville, ça existe? Vous me parlez de Paris. On peut penser à des grands restaurants, à des grands chefs étoilés qui sont à la campagne, mais la cuisine de Paris, la cuisine de ville.
Ah, c'est marrant parce que quand on parle de ça, c'est une réflexion que je me suis posée quand on a ouvert Clover et Saint-Germain-des-Prés.
Bah oui.
Bah qu'est-ce qu'on fait? on a cuisiné le pavé, non, mais c'est vrai. En fait, c'est peut-être pas forcément les mêmes terrains d'expression. Je pense que
mais
pas.
Pardon, je te coupe. Mais c'est pour ça que vous allez peut-être sur les sandwichs ou les choses comme ça?
Aussi. Mais par exemple, et c'est marrant parce que c'est devenu une signature chez Clover, qui est l'un des plats que tout le monde mange, c'est le pavé parisien. On fait chauffer un pavé parisien, le pavé de mai 68, Saint-Germain. Hein.
Un caillou.
On le fait chauffer et dessus, on va venir cuire différentes choses. Que ce soit un bout de calamar roulé avec un condiment d'herbe, que ce soit un bout de thon, cet été on faisait ça, un bout de thon de Méditerranée avec une feuille de framboisier, un condiment de framboise et pistache, on posait dessus, ça crépite, on le prend du bout des doigts, ça mange, c'est toujours avec beaucoup de peps parce que c'est petit, avec de l'acidité et autres. Bah, la cuisine des villes, c'est ça aussi. C'est peut-être cette cuisine qui vient d'autre part que de faire référence à une culture. Et puis après, Paris, il y a des plats qui sont parisiens. Chez Clover Grill, quand je réfléchissais aux sauces qui allaient accompagner les viandes, mais aussi les poissons, il y a une sauce qui est très connue qui s'appelle Bercy, c'est marrant. Bercy.
C'est quoi la sauce Bercy?
Et ben, la sauce Bercy, c'est le pendant de la sauce bordelaise. La sauce bordelaise, c'est vin rouge, la sauce Bercy, c'est vin blanc.
Ça alors?
Et voilà. Et c'est une sauce qui s'applique à des préparations de poissons ou à des préparations de viande. Et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi d'aller chercher dans toute l'histoire de la cuisine les choses qui peuvent s'appliquer. Alors on l'a un petit peu aménagé, hein, parce que la sauce Bercy, c'est une réduction d'échalotes de vin blanc avec la mignonnette de poivre dans laquelle on ajoute une sauce espagnole. Et au dernier moment, on va mettre un salpicon de moelle et du persil haché. La sauce espagnole étant une sauce extrêmement lourde, nous on a fait un jus de viande plus léger pour l'amener dans le... Dans
ça,
la modernité.
Ça, par exemple, Jean-François, c'est combien d'heures de réflexion, de préparation, de tentative, d'essai avant d'arriver à celle qui vous plaît le plus?
Moi, j'ai l'habitude de dire quand un plat est totalement fini, on l'enlève de la carte parce qu'on n'a plus rien à en tirer.
Et est-ce qu'il existe, comme pour les grands couturiers, la saison d'été, la saison d'hiver? Est-ce que vous changez régulièrement vos cartes?
Tout le temps.
Vous faites des nouveaux modèles?
Elles sont tout le temps en mouvement, en fait, les cartes. Et les vérités d'un jour ne sont pas forcément les vérités du lendemain, parce qu'on essaye de travailler chez Clover. On a une poulette de Bresse qui est cuite à la broche, et sous la peau, on met une petite farce qui est faite avec des noix, avec des herbes fraîches et la façon dont on positionne la volaille à la broche, soit la graisse qui va s'écouler de la cuisson va venir sur le blanc et peut-être surcuire le blanc, soit si on la met dans l'autre sens, elle va venir sur les pilons et donc ce qui est plus long à cuire sera cuit au même moment et du même moelleux. C'est en fait, voilà, c'est tous ces petits détails qui font que les plats évoluent. C'est on la cuit comme ça ou on la cuit comme ça, c'est pas la même cuisson. Et si on la cuit comme ça, c'est encore une autre cuisson. Et personne ne peut voir le geste parce qu'on est à la radio, mais que ce soit vertical, horizontal ou en biais, eh bien, ça a des incidences qui sont folles. Et c'est tous ces petits détails qui, quotidiennement, en fait, font que la cuisine qu'on réalise dans nos maisons est en mouvement. J'apporte un bémol.
Je défie quiconque de ne pas avoir faim à ce moment-là de l'émission. Enfin, continue, Jean-François.
Et en fait, j'apporte un bémol. On n'est pas toujours en train de changer. On est toujours en train de rechercher pour faire mieux.
Ouais.
C'est ça qui est le but de la cuisine.
Qu'est-ce qu'on écoute, Jean-François ?
Quand j'étais un jeune cuisinier, je pense que quand on est jeune, et c'est marrant parce que à l'époque où cette chanson est sortie, j'avais 14 ans, et on rêve tous d'un autre monde.
Téléphone. Choisi par Jean-François Piège sur RTL. À notre monde. Donc, je posais la question à Jean-François, vous n'avez pas vu les Insus, pas le temps encore
non.
D'aller les voir. Et mais c'est compliqué de vous avoir le soir, en fait, hein, Jean-François
bah, oui.
Piège.
Bah, c'est pour ça, on ne peut pas tout faire.
À partir de quelle heure vous êtes dans votre cuisine ?
Dans une des cuisines qui est notre, je sais tout le temps, mais laquelle, principalement au grand restaurant, évidemment, parce que c'est le bateau amiral.
Ouais.
Là, on est en train d'ouvrir Clover Grill, donc...
Vous allez y passer un peu ?
On y passe beaucoup, même. entre Elodie et moi, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un des deux.
Vous êtes devenu une grosse vedette médiatique grâce à la télévision, Jean-François. On a mis un visage sur ce nom qui est le vôtre et qui était déjà un chef étoilé. Ça fait quoi d'être une vedette médiatique sans avoir changé de boulot en fait?
Pardon, c'est pas répondre. Non, parce que je me pose jamais cette question. Je pense que le jour où on se pose cette question, ça devient dangereux.
Bah oui, et à la fois, pourtant, c'est effectif. Est-ce que le fait que les gens vous reconnaissent dans la rue, le fait qu'on vous demande des autographes, c'est très bizarre la notoriété quand même.
C'est très dérangeant au début parce que j'étais pas forcément préparé à ça et je m'y attendais pas. Mais après, c'est toujours. Ce qu'il faut se dire une chose, c'est que les gens sont quand même toujours extrêmement bienveillants, très gentils et le minimum, c'est d'être dans la même phase. Et parfois, c'est difficile parce que de temps en temps, je suis dans mes pensées et c'est vrai que je peux passer à côté de certaines choses. Parfois, Elodie me dit on t'a parlé là.
Ouais.
Voilà.
Mais moi, je me souviens justement d'un artiste célèbre qui m'avait dit c'est impossible d'être normal. C'est-à-dire, si vous passez pas du temps, vous avez peut-être pas avec les gens, on va dire il est con celui-là. Si vous passez trop de temps, vous perdez votre temps. Enfin, c'est difficile quand on a atteint un certain taux de notoriété.
Alors, moi, j'en suis pas là, mais faut juste que dire. La normalité, de toute façon, quand je disais tout à l'heure cuisiner, c'est un acte d'amour. Voilà, quand on a la chance en plus d'avoir des ressentis des personnes qui vous disent on adore ce que vous faites et autres, le minimum c'est de.
Oui, c'est vrai, non, je suis d'accord. Et la télé, c'est un exercice qui vous amuse, Jean-François?
Alors, c'est marrant parce que c'est une sauce à laquelle on savait pas à quelle sauce on allait être mangé parce que ça fait un peu vieux Brisgard, mais il y a 8 ans, pour la première fois, parce qu'on est à la 8e saison de Top Chef,
ouais.
On découvrait ce monde en France. Donc évidemment.
Aujourd'hui, vous êtes devenus des superstars tous. Hein. Non, mais c'est rigolo.
Oui, mais en fait, moi, je le vois pas parce que je pense que je fais la cuisine à la télé. Je n'ai jamais pensé faire de la télé.
C'est autre chose, c'est la transmission, là.
Oui, mais c'est pour ça que je l'ai fait. Hein. Parce que moi, j'ai entendu plus jeune, si tu travailles pas bien à l'école, tu seras cuisinier comme Jean-François. Et, ouais. comme disait ma grand-mère, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des sauts de gens. Donc effectivement, d'avoir cette capacité aujourd'hui de pouvoir. Transmettre que ce métier, pour reprendre la phrase d'un ancien Premier ministre, l'ascenseur social n'est pas cassé, eh bien effectivement, c'était intéressant. L'effet a eu une réalité. Hein. Les formations de cuisine se sont à nouveau remplies, ce qui n'était plus le cas.
Ouais.
Et c'est un univers où si on a envie de travailler, on travaille. Hein. J'ai un souvenir qui est simple, hein, c'est un jour en allant dans un magasin de cuisine qui est assez connu à Paris, quand je suis arrivé dans les années 80, le magasin était plein. Dans les années 90, le magasin était vide, et dans les années 2010, où on a commencé, il est devenu à nouveau plein, parce que la cuisine n'était plus une contrainte, ça devenait un plaisir. Ça a toujours été, mais il fallait le ramener dans ce plaisir-là, et je pense que la médiatisation de la cuisine, pas des chefs, hein, je parle bien de la cuisine, a amené à ça. Parce que on n'est pas obligé d'être un grand cuisinier pour faire à manger.
Mmh. Est-ce que vous êtes capable d'apprendre à n'importe qui à faire à manger, Jean-François? Mais non, il faut avoir de l'appétence à ça.
Ben non, parce que par exemple, je viens de faire un livre qui s'appelle Jean-François Piège pour tous, qui est paru chez Hachette. C'est la cuisine que je fais chez moi. Et il y a peu d'ingrédients, parce que chez moi, j'ai pas ce que j'ai au restaurant, j'ai pas la même cuisine qu'au restaurant. Non, mais et puis j'ai pas le temps. Mais j'ai encore moins. Non, mais j'ai encore moins le temps que les autres de faire à manger.
Ouais.
Faire un céleri rémoulade, c'est pas une invention qui est la mienne. Simplement que moi, j'ai au lieu de faire une mayonnaise, j'ai remplacé la mayonnaise par une crème épaissie avec un peu de moutarde et de vinaigre. Parce que quand on met du vinaigre dans la crème, l'acidité fait cailler la crème, donc ça épaissit. Simplement qu'au lieu que le céleri rémoulade il soit super lourd, il est super léger, et au lieu qu'il soit empâté de goût par la mayonnaise, on révèle le goût du céleri. Le céleri, si on l'a acheté chez Terroir d'Avenir à Paris, c'est des gens qui ont une boutique rue du Nil, où c'est des céleris de paysans, je peux vous dire, c'est autre chose que le céleri qui a été passé dans l'acide ascorbique pour pas noircir, dans lequel il y a 3 tonnes de jus de citron, auquel on sent tout sauf le céleri. Ben, c'est des petites choses, et j'en ai mis 80 recettes. Un exemple, le soufflé, qui est le truc par excellence le plus difficile à faire.
Bah oui.
Vous savez ce que c'est, ma recette?
Non.
4 œufs, 3 cuillères de sucre et l'élément que vous voulez.
Quoi?
C'est tout. Et vous faites un soufflé. Un jour, en 15 minutes, j'ai fait un soufflé. Mon Dieu, c'est pas possible.
Bah,
c'est pas ma recette, c'est une recette qui m'a été transmise.
Vous êtes un génie.
Non. C'est une recette qui existe. On sépare les blancs des jaunes. Dans les blancs, on les met au batteur, on les monte, on met 2 cuillères de sucre. Dans les 4 œufs. Dans les jaunes, on met 1 cuillère de sucre et on les monte aussi en ruban. On va rassembler les deux. On met un fruit de la passion dedans, un jus ou un zeste de citron, un zeste d'orange avec du Grand Marnier, de l'alcool de poire. on prend des moules à souffler, on les beurre, on les sucre, on les met au frigo. Le temps que les œufs montent, si on a des batteurs, sinon on fait ça à la main. Faut tout que soit monté très ferme, on mélange délicatement, on met le four à 220 degrés, on remplit ces moules beurrés sucrés, et la photo qui est dans mon livre, il n'y a pas eu de Photoshop, je vous rassure, parce que les soufflés, on les a mangés par la suite, ça marche tout le temps. Donc, faire à manger à la maison, c'est évidemment sur certaines choses très compliqué. Quand on fait une terrine, bah, ça prend du temps, parce qu'il faut aller chercher les ingrédients, il faut aller chercher tout ça. Mais il y a aussi des choses plus simples. Ce livre que j'ai fait, c'est la cuisine au retour du marché qu'on a fait là. Donc, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord.
Et dites-moi Jean-François, on va conclure avec ça. Qu'est-ce que vous allez faire à manger à Antoine pour Noël ?
On va se faire à manger à tous. Et à Antoine, on va faire... Moi, j'ai une passion pour la volaille qui n'est pas forcément l'image de Noël qui est le chapon. Parce que je pense que tout ce qui est le meilleur dans la volaille, c'est la poularde. Donc une poularde de Bresse qui a été emmaillotée dans du lin, qui a pris le temps de se reposer, qui a une jolie couverture de gras sans être trop grasse, dans lequel on va la mettre à la broche, dans le four, et on va prendre le temps de la cuire tout doucement, mais qu'elle soit très dorée. Et je sais pas avec quoi on va la servir, on ira au marché et suivant ce qu'on trouve, que ce soit peut-être des endives, peut-être des pommes de terre, peut-être des légumes racines, ce que la saison nous aura donné suffira à notre bonheur, parce que c'est une des choses que je préfère et je crois que ça peut plaire à pas mal de monde.
Merci Jean-François Piège d'avoir été
Merci
là.
Eric.
Rendez-vous au Clover Grill, c'est tout nouveau. C'est 6 rue Bagnol, dans le premier à Paris. Moi, j'ai hâte de découvrir tout ça. Merci. Si vous croisez Elodie, vous l'embrassez pour moi.
Ça sera fait.
Mes amitiés au jeune Antoine, évidemment. et à bientôt. C'était la première heure de la semaine avec Jean-François Piège sur RTL. Salut.